buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens, avec aujourd'hui les télévisions russes suspendues en Lituanie, l'héroïne fléau d'Oslo, l'émigration saisonnière des Moldaves et la politique commune de la pêche mal vécue en Irlande. La décision a été radicale. En octobre et au printemps dernier, la Lituanie a suspendu pour 3 mois 3 chaînes de télévision russes, des chaînes qui diffusent sur le territoire lituanien pour la petite communauté russophone du pays. La raison ? Désinformation et incitation à la haine, selon Vilnius, qui estime qu'en plein conflit ukrainien, ces chaînes russes présentent une vision partiale, voire mensongère du conflit. Des chaînes qui ont également eu la mauvaise idée de réécrire l'histoire récente de la Lituanie. Reportage à Vilnius de Frédéric Lebel.
La voix de Moscou s'est interrompue pendant tout juste 3 mois, une sanction inédite motivée par un flagrant délit de désinformation.
Задержанным оказался россиянин Михаил Головатов, бывший командир знаменитой группы спецназа «Альфа». Он обвинялся в совершении военных преступлений во время событий, произошедших у Вильнюсской телебашни.
En octobre dernier, la chaîne russe Pervy Baltiski avait donné dans un documentaire une version plus que révisionniste de l'indépendance lituanienne, déclarant que les combattants pour la liberté morts le 13 janvier 91 n'avaient pas été tués par les soldats russes, mais par l'armée lituanienne. Tout juste intolérable pour l'actuel directeur de la commission de la radio-télévision.
Pour moi aussi, c'est une histoire personnelle, parce que lorsque les soldats russes ont attaqué l'immeuble de la radio et de la télévision, j'étais moi-même dans le building. J'étais le directeur de la radio à l'époque, donc j'étais le témoin direct des événements. Les balles visaient clairement les studios du 4e étage. On peut d'ailleurs encore voir les impacts sur les murs. Donc pour moi, c'est un événement très personnel.
Aujourd'hui, la propagande continue sur l'Ukraine cette fois. Nerius Malukevicius est professeur de politique internationale et suit de près l'actualité des médias russes. Il décortique la grosse artillerie de la propagande.
C'est une technique très intéressante. Par exemple, dans certains reportages sur l'Ukraine, eh bien, ce sont des images du conflit tchétchène qui sont utilisées. Ils présentent des vidéos amateurs qui sont censées traduire la souffrance du peuple, et je parle là d'exemples qui ont vraiment été vérifiés. Ils n'hésitent pas non plus à utiliser des images de Syrie ou même d'Iran pour illustrer ce qui se passe en Ukraine. Il y a peu de temps, il y avait un reportage sur les bombes au phosphore censées exploser en Ukraine, et là encore, c'était des images sorties de leur contexte qui venaient d'un autre conflit.
Les exemples ne manquent pas sur la chaîne RTR ou NTV Mir, tous plus farfelus les uns que les autres. Comme cette actrice qu'on voit apparaître dans des manifestations pro- et anti-indépendantistes au gré de ses humeurs. Il y a même pire, l'utilisation d'images subliminales. Exemple à l'appui avec ce reportage sur l'incendie d'Odessa en mai dernier, qui a fait presque 40 morts. Martinas Lukosevicius est chargé de la surveillance à la commission de la radio-télévision.
Donc si on regarde le reportage, en apparence tout est normal, on parle de l'incendie.
Who made the fire? Yes, if we go forward, if we stop.
Mais un peu plus loin, toujours en déroulé, image par image, il y a un message écrit en russe et on peut lire l'incendie et le fait des ultranationalistes de Pravi Sektor. C'est une technique interdite. Ça a été inséré justement pour influencer le spectateur. Mais ils en font beaucoup usage, c'est loin d'être le seul exemple.
En Lituanie, la communauté russophone n'aime pas trop qu'on touche à sa télé. Et les 3 mois de suspension n'ont pas plu. Redzin a 30 ans et il nous a dit sa colère à la sortie du supermarché de Rudamina, un quartier russe à la périphérie de Vilnius.
Dans ce pays, ils ne respectent vraiment pas les droits de l'homme. Moi, j'ai payé mon abonnement sur le câble pour regarder ces télés et ils ont juste décidé comme ça de les fermer. C'est incompréhensible.
Je pense que ça ne devrait pas être.
Le gouvernement lituanien dit que les informations concernant l'Ukraine sur ces télévisions ne sont pas objectives.
Ah, vous voulez parler d'Ukraine? Ok, vous savez, les chaînes de télé montrent des choses différentes. Moi, j'ai mon opinion et j'ai aussi des amis là-bas. Et je peux vous dire que la télé russe ne dit peut-être pas toute la vérité, mais au moins 80% de la vérité. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en Ukraine, vous devriez y aller. Mais je ne vous le conseille pas.
Si la Lituanie a pu prendre des mesures drastiques pour lutter contre ces dérives médiatiques, c'est aussi parce que sa communauté russe est très minoritaire, 6% de la population contre 25% en Lettonie et en Estonie. Mais à long terme, pour l'universitaire Nerijus Maliukevičius, il y a danger.
C'est un problème pour une partie de la population qui vit dans ce que j'appellerais un ghetto médiatique. C'est particulièrement vrai en Estonie ou en Lettonie. Les russophones sont envahis par les infos de ces télévisions publiques russes. Et aucun média estonien, letton ou même d'Europe de l'Ouest n'arrive à atteindre cette population pour donner une autre vision du monde et pour contrer cette campagne médiatique agressive.
Récemment, le chef de la diplomatie lettonne a lancé l'idée d'une chaîne baltique indépendante en langue russe pour contrer la propagande de Moscou. Mais il ne s'agit pour l'instant que d'une idée sans financement à la clé.
Située entre l'Ukraine et la Roumanie, la Moldavie a vu émigrer plus du quart de ses 4 millions de citoyens. La petite république a eu le triste privilège de décrocher le titre de pays le plus pauvre d'Europe, avec des salaires moyens qui oscillent entre 70 et 150 euros. Mais avec l'amélioration de la situation économique, les Moldaves ne migrent plus désormais qu'une partie de l'année. Précision de Régis Janté.
Dans les années 1990, les Moldaves quittaient tout bonnement leur pays. Ils n'y revenaient qu'occasionnellement, après plusieurs années parfois. Les drames familiaux se multipliaient, on ne comptait plus les enfants restés seuls au village avec les grands-parents, tandis que leur père travaillait sur les chantiers de Sibérie et que leur mère faisait d'éreintants ménages au Portugal ou en Allemagne. Certes, les Moldaves continuent d'émigrer. L'amélioration de la situation économique n'est pas telle que chacun puisse rentrer définitivement au pays. Mais ceux qui partent le font de plus en plus pour quelques mois seulement, le temps de récolter les quelques milliers d'euros qui permettront de bien vivre dans les replis verts de la campagne moldave. La tendance se vérifie un peu plus chaque année, comme en témoigne la baisse du différentiel entre les entrées et les sorties du pays. À en juger par ces chiffres, le pays s'est retrouvé avec 122 000 Moldaves de moins pour l'année 2005. Il est aujourd'hui de l'ordre de moins 80 000 par an. La crise financière a fait s'accroître la tendance, l'Europe n'offrant plus d'emplois comme avant. Du coup, le petit matelas d'argent constitué à l'étranger a parfois servi à ouvrir une affaire au village ou dans sa ville natale. Les migrants des années 1990 sont volontiers revenus pour tenir la boutique, tandis que le fiston se charge de compléter le budget familial en allant 4-5 mois par an en Europe. Le régime libre de visa avec l'espace Schengen pourrait favoriser ce comportement nomade. Avant, il était si difficile de pénétrer le marché de l'emploi européen qu'on se devait d'y rester une fois obtenu le précieux visa.
Salaire, pouvoir d'achat, qualité de la vie. La Norvège a pour habitude d'être en tête des classements, mais il en est un dont la pétromonarchie se serait bien passée. Depuis une décennie, elle compte le taux d'overdose à l'héroïne le plus élevé d'Europe. Dans les rues d'Oslo, Pauline Curtet est allée à la rencontre des consommateurs de drogue et des personnes qui leur viennent en aide.
Sur l'une des avenues principales d'Oslo, près de la gare centrale, cohabitent deux univers. Celui des touristes et des locaux qui vont faire leur shopping dans les nombreuses boutiques du quartier et celui des drogués qui se réunissent ici toute la journée en petits groupes. En ce milieu d'après-midi, la plupart se sont déjà injectés leur dose d'héroïne quotidienne. Ils ont du mal à parler, toute conversation avec eux est très difficile.
On va commencer dans ce coin-là, puis on va descendre. C'est ici que se trouvent les consommateurs.
Thorstein Biodal est volontaire dans une association d'aide aux toxicomanes. Il distribue des seringues propres. Cet univers, il le connaît bien. Il a été toxicomane pendant plus de 20 ans, avant de décrocher, il y a 2 ans et demi.
C'est très facile de trouver de la drogue en ville. En pleine nuit, c'est même plus facile de trouver de l'héroïne que de la bière. Mais moi, j'ai vraiment senti que je devais arrêter. Le dernier hiver durant lequel j'ai consommé l'héroïne, je dormais dehors tout le temps. Il faisait très froid dans cette situation. On vieillit très vite. Si je n'avais pas arrêté, je n'aurais pas survécu une année de plus.
La seule salle d'injection ou salle de shoot d'Oslo se trouve dans le centre-ville, toujours près de la gare. Elle est financée par le gouvernement et peut accueillir 6 drogués à la fois pour qu'ils puissent consommer leur héroïne dans de meilleures conditions. Problème, elle est toujours remplie et n'ouvre que quelques heures dans la journée. Autant dire une goutte d'eau face au fléau que représente l'héroïne en Norvège. Depuis 2002, 240 personnes meurent chaque année d'une overdose dans le pays. C'est plus que le nombre de tués sur les routes du pays scandinave. Surtout, c'est un record face aux autres pays d'Europe occidentale. Si l'héroïne est aussi mortelle, c'est qu'elle est injectée dans des conditions déplorables. Non seulement les seringues transmettent des maladies, mais leur contenu souvent douteux conduit aussi à des overdoses. Pour certains spécialistes, il existe des alternatives. Lynn Gersing est chercheuse au sein de l'Institut norvégien pour les drogues et l'alcool.
On peut réduire la mortalité des consommateurs de drogue en encourageant l'inhalation d'héroïne plutôt que l'injection, car cette technique est bien moins dangereuse. Bien sûr, ce n'est pas une bonne solution, c'est la moins pire des solutions. Mais il y aura toujours des gens pour se droguer. La priorité, c'est de faire en sorte qu'ils survivent le plus longtemps possible.
Fumer l'héroïne, comme on fumerait du cannabis ou du tabac, l'idée a fait son chemin en Norvège. Depuis le début de l'année, des expériences locales sont en cours, à Oslo et à Bergen, autres villes norvégiennes touchées par les overdoses. Elles distribuent du matériel propre aux consommateurs pour qu'ils fument au lieu d'injecter le produit. Le gouvernement a même, un temps, songé à légaliser complètement l'inhalation d'héroïne. Mais ce projet a rencontré une forte opposition de la part des associations anti-drogues. Elles y voient là un abandon du combat contre la drogue. Arild Nuxen est le président de l'Association pour une politique humaine de la drogue. Très écouté par les médias norvégiens, il est devenu l'ennemi numéro un des associations anti-drogue.
En 2006, j'ai créé mon association, car je me suis rendu compte que toutes les autres organisations concernées par la drogue ne parlaient que d'interdiction. Or, je pense qu'au lieu de punir, il faut prévenir, il faut réduire les risques et permettre aux drogués d'avoir une vie digne, normale. Ici, en Norvège, un consommateur d'héroïne ne peut pas faire son service militaire, ni trouver du travail, alors que s'il fumait, par exemple, du cannabis, ça serait mieux accepté. Il est exclu d'office de la société. Et ça, c'est pas normal.
Reste que les propos des défenseurs de l'inhalation deviennent, ces derniers mois, un peu moins audibles. Le gouvernement de centre-droit, élu en septembre dernier, n'est pas en faveur de la légalisation, rappelant que si une telle loi était votée, l'État devrait s'occuper lui-même de distribuer la drogue, comme pour l'alcool ou le tabac. Une perspective difficile à imaginer pour beaucoup de Norvégiens. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories.
Le 1er janvier dernier, de nouvelles règles sur la pêche sont entrées en vigueur en Europe. L'objectif est de reconstituer les stocks de poissons et de mettre fin au gaspillage, tout en faisant de la pêche une activité créatrice d'emplois et de croissance. Mais si la philosophie peut sembler louable à Bruxelles, elle a parfois du mal à passer auprès des pêcheurs eux-mêmes. Exemple avec ces Irlandais qui ont accueilli Clémence Denavy à Howth, petit port de pêche au nord de Dublin.
La pêche, c'est une histoire de famille chez les Doran et cela fait 3 générations que ça dure. Michael, le grand-père, a acheté son premier bateau, le Saint Mary, dans les années 30 et les affaires ont prospéré.
Mon père était pêcheur. Il ne passait pas beaucoup de temps à quai, juste pour quelques travaux sur son bateau et pour réparer les filets. Il est mort il y a quelques années. On était 7 enfants, alors ma mère ne manquait pas de travail. Elle vient chaque jour ici pour boire un café et suivre un peu ce qui se passe. Là, c'est notre bateau, le bateau de la famille. J'ai un frère qui est pêcheur, un autre qui fabrique les filets, et moi, je vends le poisson qu'il pêche.
Sean a la petite cinquantaine, le regard clair, des mains de travailleur, lui qui est pourtant patron de la poissonnerie et des 2 restaurants de la famille. Du quai, il regarde les hommes et leurs bateaux vieillir. À Haute, comme dans la plupart des ports européens, les bateaux ont 25 ans en moyenne et la profession peine à recruter.
Le bateau que vous voyez là, ça fait 2 semaines qu'il est à quai. Il n'a plus de capitaine et l'armateur n'arrive pas à en trouver un nouveau. C'est très difficile d'arriver à former un équipage. Les salaires ne sont pas aussi bons qu'avant. Il y a des bateaux, souvent le capitaine est le propriétaire. Alors il doit travailler dur et se débrouiller pour trouver des hommes là où il peut.
D'autant qu'avec la hausse des prix de l'énergie, du fuel, cela devient de plus en plus difficile pour les pêcheurs de boucler leur budget.
Le prix du diesel est élevé, ça représente une grande partie du budget des pêcheurs. Résultat, c'est moins d'argent pour investir, pour acheter un nouveau bateau, pour payer les équipages. Le prix du carburant, c'est vraiment un problème. Et pas seulement ici, en France, un peu partout dans le monde en fait. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il y a moins de bateaux qui sortent, ce qui fait remonter un petit peu les cours du poisson. Et comme de plus en plus, les pêcheurs négocient en direct avec les revendeurs, ils n'ont plus besoin de payer des intermédiaires, ça leur fait plus d'argent et c'est mieux.
For fishermen. So that's good for them.
L'Irlande n'est pas comme l'Espagne ou la Norvège l'un des grands producteurs de l'Union, mais l'économie du pays a longtemps reposé sur l'agriculture et la pêche. Question de tradition, question de culture aussi. Aujourd'hui, si l'économie repose essentiellement sur les services, la pêche représente toujours plus de 6% du PIB irlandais. Le problème ici, comme dans bon nombre de pays européens, ce sont les quotas établis par Bruxelles pour garantir une pêche durable. L'Irlande a droit à 4% de la capture globale, ce qui est évidemment très frustrant.
Bruxelles, avec toutes ses règles, ses quotas, il faudrait que l'Europe soit un peu plus réaliste. On a besoin de la pêche, elle doit continuer à exister, et on a parfois l'impression qu'à Bruxelles, à coup de lois, de règles, on veut la faire disparaître. C'est vraiment une pomme de discorde en Irlande. La mer est tellement riche ici et on a seulement le droit de pêcher 4% de la capture européenne. Si on pouvait pêcher seulement 1% de plus, ça augmenterait de 25% notre production. Ce serait juste un petit changement pour Bruxelles, mais ça ferait une très grande différence pour nous en Irlande. La pêche, c'est un sujet de seconde zone pour nos politiciens à Bruxelles. La plupart ne savent même pas à quoi ressemble un bateau de pêche. À Haute, ça va encore parce que les jeunes arrivent à trouver du travail, mais dans certaines villes de la côte ouest, la pêche, c'est toute l'économie, c'est la seule industrie.
Et quand on demande à Sean s'il croit en des jours meilleurs pour la pêche, si le fonds adopté en avril dernier à Bruxelles pourrait aider financièrement à l'application de la nouvelle politique commune, si tout cela va aider, ça le fait rire.
Non, je crois pas que la pêche sera un secteur florissant. C'est un métier très difficile et sincèrement, je crois que c'est plutôt une passion, un choix de vie pour beaucoup de pêcheurs. Ils sont faits pour être dehors et pas pour travailler dans un bureau. Et quand un jeune prend la mer, c'est pour la vie. Il a ça dans le sang, la mer, dans la peau. Mon frère, c'est exactement ça. Alors, forcément, ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Même quand les temps sont durs et que c'est difficile d'aller en mer et de continuer à pêcher.
Sean ne prend pas la mer comme son frère et il reste à quai, mais il a de l'eau salée dans les veines. Pourquoi, autrement, irait-il passer ses vacances à Concarneau, un petit port de pêche en Bretagne ?
Accent d'Europe, émission réalisée par Françoise Grelot, prend ses quartiers d'été, mais vous accompagne tout au long des prochaines semaines sur RFI et RFI.fr avec nos meilleurs moments et chaque jour la chronique musique de Vincent Théval. Bel été à tous.